Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Draft. On va continuer le top 50 qu'on a commencé il y a deux jours. On a presque l'impression que c'était il y a 5 minutes. Et pour m'accompagner, comme toujours, Jean-Michel Boujard, bonjour à toi.
Salut Victor, bonjour tout le monde.
Donc, on rappelle un peu le contexte, si vous n'avez pas vu le premier épisode, mais allez l'écouter, évidemment. Grégory Richard va sortir un top 100 d'ici la semaine prochaine, à l'écrit, si je ne dis pas de bêtises. Et en attendant, nous, on s'est amusé à faire le boulot un peu facile, c'est-à-dire à descendre le top 50 et à s'arrêter sur les joueurs qui nous intriguent, sur les joueurs dont on veut parler absolument. Et on a déjà parlé receveur, on a parlé defensive line et on a parlé cornerback. On va commencer ce top 25 et on va parler d'une position un peu importante, mais d'abord je vous donne évidemment les premiers joueurs. 25e Anthony Richardson, quarterback. 24e Michael Mayer, tight end. 23e Jackson Smith and Jigba, receveur. 22e Quentin Johnson, receveur. 21e Trenton Simpson, linebacker, plutôt linebacker extérieur d'ailleurs. À la 25e place, se situe donc Anthony Richardson. On en a parlé, et parlé, mais pourquoi on en parle autant? C'est parce que c'est le facteur X de cette draft. Anthony Richardson, pour vous dire, au niveau des tests physiques, c'est Cam Newton. Ça vous donne un peu le joueur. Il n'y a que trois joueurs qui ont réussi des tests physiques parfaits au combine depuis 1987. C'est lui, Cam Newton et Dante Culpepper. Autant vous dire que c'était plutôt des beaux joueurs. Anthony Richardson, donc physiquement, c'est un numéro 1 de draft. Sauf que sur le terrain, il y a une seule saison réellement en tant que titulaire. Saison moyenne à Florida, qui a montré, on va dire, des limites tant en termes de précision qu'en termes de QI football. Et du coup, en fait, c'est vraiment la définition du boom or bust, c'est-à-dire le joueur qui va exploser ou qui n'arrivera jamais à destination. Bras supersonique, super athlétique, mais soit il progresse à la précision et au QI football, comme a fait Jalen Hurts, par exemple, et il devient un des meilleurs joueurs de la Ligue, soit il progresse jamais, dans 3 ans, il peut ne même plus être en NFL. Jean-Michel, je te dis tout de suite, là, tu dois te mouiller. Anthony Richardson sera-t-il le premier choix de la draft par les Carolina Panthers?
Non, moi je dirais que non, quand même pas. Je pense pas, parce que dans la QV de l'année dernière, oui, sans problème, il était numéro 1. Je veux dire, même l'année dernière, c'était pas le quarterback.
Oui, enfin bon, l'année dernière, voilà. Hein.
oui, Après, l'année dernière, tu pouvais voir Kenny Pickett, qui était un quarterback plus accompli qu'Anthony Richardson, déjà. Mais lui, c'est pas une question de plancher, c'est vraiment une question de plafond, c'est le potentiel. Je veux dire, voilà, comme tu l'as dit, il est grand, il est costaud, il a un bras très puissant, il est hyper athlétique, il peut courir, il peut bouger dans la poche, il peut gagner des yards au sol, il peut... Enfin bref, en gros, c'est simple, si les studios DC Comics ou Marvel faisaient un film sur un quarterback en mode super-héros, ben voilà, il prendra Anthony Richardson, parce qu'il a vraiment tous ces attributs-là. Donc oui, ça peut devenir une superstar en NFL. Et c'est pour ça qu'on en parle autant et que vous n'avez pas fini d'en entendre parler, parce que voilà, forcément il excite tout le monde, c'est obligatoire. Après, comme tu l'as dit, il y a tellement de travail, je veux dire, de la précision, comme tu l'as dit, et c'est pas que ça vient de nulle part, c'est, tu le vois jouer, et tu vois qu'il lance avec son pied avant relevé, par exemple, des trucs mais incroyables, je veux dire, même un lycéen, il fait pas ça, il y a vraiment un gros travail technique à faire avec lui. Puis, bon, après, c'est pas très étonnant, il est quand même très jeune, il a que 21 ans, il a qu'une seule saison comme titulaire, il lui manque des situations de jeu, donc il y a beaucoup de travail. Mais moi, je pense qu'il part top 5, c'est obligé numéro 1, je pense pas, mais il perd top 5, oui, obligatoirement, parce que ce potentiel-là, après, comme tu l'as dit, peut-être dans 2 ans, le général manager qui aura fait ce choix, ben, il sera tout simplement viré, parce que ça sera une catastrophe. Mais il a tellement d'attributs, et puis ses défauts, ce sont des défauts que tu peux coacher. Voilà, je veux dire, apprendre à mieux lire les défenses, apprendre à avoir une meilleure technique, que ce soit la position des pieds, que ce soit le lancer de balle, faire les meilleurs choix, tout ça, ça peut s'apprendre, donc surtout à cet âge-là. Donc moi, je pense que oui, c'est un top 5 en puissance, hein, ça c'est clair.
Ah, j'en suis pas là quand même. Top 5 en puissance. Ouais.
Non mais de la draft, je parle de la draft. Pour moi, il part dans le top 5. Hein. Je vois pas comment il peut échapper au top 5 de la draft. Hein. Je vois pas. Hein. Le top 5, je rappelle, je veux dire, il y a aussi les Colts en 4 et puis il y a aussi Seattle en 5. Et ce sont 2 possibilités. Hein.
Oui.
Regarde à 4 les Colts. Je veux dire, voilà, un entraîneur que tu connais bien. Il s'occupait de Jalen Hurts l'année dernière. En plus, c'est un entraîneur qui était un quarterback lui-même à l'université. Donc, il peut très bien repérer ce qui va pas. Il peut très bien lui apprendre ce qui va pas. En plus, il était habitué à travailler avec un quarterback mobile. Les Colts, ils auront pas la pression d'aller en playoffs l'année prochaine. Donc, il peut prendre le temps avec lui de le développer. Regardons les Seattle en 5. Ok, il y a Geno Smith. Mais Geno Smith, en gros, il est là pour 2 ans. Ben, pendant 2 ans, tu fais travailler Richardson. Et si ça se trouve, il y a une bombe pour les années futures. Et peut-être que non, mais c'est ça aussi le pari. Moi, je pense qu'Anthony Richardson, il sort pas du top 5 de la draft.
Ouais, alors pour le coup, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'un Seattle, par exemple, moi, ça m'intéresserait. Parce que moi, je vais dire tout de suite, jurisprudence Mahomes, si on veut, pour moi, le meilleur scénario pour Richardson, c'est qu'il ne voit pas le terrain la première année, voire les 2 premières années. On rappelle que Rodgers, si je ne dis pas de bêtises, ne voit pas le terrain les 2 premières années. Bon, pour des raisons différentes, il y avait Brett Favre, etc. Mais c'est pas quelque chose d'inédit, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Moi, j'espère pour lui, en effet, qu'il ne voit pas le terrain. Et on verra, hein, peut-être que ça sera finalement très différent, mais c'est peut-être plus séduisant pour lui. Une équipe à la Seattle, moi, je suis assez d'accord. En plus, bah, Geno Smith, ça a l'air plutôt d'être un bon gars, un gars qui sait très bien qu'il n'est pas un franchise quarterback qui va rester 17 ans. Donc bon, ça paraît une situation assez saine pour lui. Donc je suis assez d'accord avec toi que ça pourrait être plutôt une bonne chose.
Après, il y a 2 écoles, hein, de toute façon. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une bonne idée ce que tu proposes, le mettre un petit peu en couveuse, le temps de corriger ses défauts, le temps d'apprendre, des choses comme ça. Mais bon, écoute, tu peux aussi le lancer sur le terrain et en te disant, ben voilà, il n'y a rien de mieux que des situations de match pour progresser. Alors oui, il faut juste être prêt il faut juste être prêt à savoir que ben, il va rater des passes faciles, on va se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, des fois, par flash, il fera un truc extraordinaire et puis, ben, il va jouer ses matchs. La saison sera coup-ci, coup-ça, mais c'est comme ça aussi qu'il va apprendre.
Ouais, mais il a 21 ans, tu vas le griller à la Sam Darnold. Moi, je suis pas d'accord.
Ouais.
C'est un vrai débat, hein, je comprends, hein, mais je suis pas d'accord. Bon, on a passé beaucoup de temps, évidemment, sur Richardson, mais il en vaut le coup. C'est par définition vraiment la question de cette draft. On va remonter un peu avec la 20e position, Brian Breezy, le defensive line. 19e, Cam Smith, cornerback. 18e, Joey Porter, cornerback. 17e, Will Levis, quarterback. 16e, Nolan Smith, edge. Beaucoup de joueurs intéressants, là. Limite, on aurait pu faire un podcast là-dessus.
Ah oui.
Will Levis est-il un quarterback du premier tour? Brian Breezy vaut-il encore un top 20 aujourd'hui? Nolan Smith, est-ce qu'on s'enflamme? Est-ce qu'il n'est pas seulement rapide? On aurait pu se poser toutes ces questions. La question qu'on va se poser, nous, aujourd'hui, elle concerne Joey Porter et Cam Smith, qui sont l'un après l'autre. Au niveau de la QV des cornerbacks, moi, j'ai envie de te poser deux questions. La première, est-ce que vraiment, maintenant, il y a une séparation entre Gonzalez, Witherspoon, au-dessus, et les autres en dessous? Et si oui, ma question, c'est qui est le troisième pour toi? Est-ce que c'est justement Cam Smith? Est-ce que c'est Joey Porter? Ou est-ce que c'est un autre?
Oui, c'est ça. Après, la séparation, je ne suis pas aussi sûr que toi. Pour moi, la séparation, c'est entre Christian Gonzalez et les autres. Voilà.
Je suis assez d'accord avec ça.
Christian Gonzalez, le truc, c'est qu'il coche toutes les cases. Voilà, toutes les cases c'est quoi? C'est ben, déjà les dimensions physiques, je suis désolé, c'est important, en tout cas pour les staffs NFL, et puis même moi je pense aussi que c'est important, il les a, voilà, il est grand, il est costaud. Après il coche la case de production, il est allé à Oregon, il a montré qu'il avait aussi des ball skills, comme on dit, des instincts, il attrapait les ballons, il sait le faire aussi, voilà. Après il coche aussi la case athlétique, donc voilà, en NFL il n'y a que des montres athlétiques, il n'y a pas de souci, il coche toutes les cases, voilà. Là où un Devon Witherspoon par exemple, qui est très bon, ben, déjà, lui, il coche pas la case gabarit. Alors, il joue très physique, etc. Oui, je veux bien. Mais il est quand même beaucoup plus léger. Et à NFL, il aura d'autres adversaires que ceux qu'il affrontait avec Illinois. Mais c'est quand même un cornerback, je pense, du premier tour. Mais pour moi, il y avait un clair numéro 1, c'est Christian Gonzalez. Ensuite, donc, ouais, Devon Witherspoon, oui, je veux bien. Je pense que Joey Porter, lui, il coche également beaucoup de cases. Il coche les dimensions physiques, il coche les qualités athlétiques. Alors, son plancher est un petit peu plus bas. Le plancher, c'est évidemment le niveau actuel, hein. Le plancher un petit peu plus bas qu'un Witherspoon, mais son plafond, c'est-à-dire son potentiel, est tellement plus élevé que pour moi, ça serait lui le cornerback numéro 2, ou aller à la limite numéro 3 si tu veux. Mais de toute façon, c'est vraiment une superbe QV qui propose un petit peu de tout. Par exemple, il y a deux jours, on vous a parlé d'Emmanuel Forbes, voilà, qui lui, ne coche pas la case gabarit, mais alors, il a la vitesse, il a vraiment les instincts, il comprend les lignes de passe, il intercepte les ballons, vous avez le monstre physique Kelly Ringo, il y a donc ce Cam Smith de South Carolina qui est aussi un très bon joueur. Il y a également Deontay Banks de Maryland. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de très, très bons cornerbacks. C'était une très belle QV. Je pense qu'avec Edge, cornerback, c'est la meilleure QV de cette draft.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je vais dire tout de suite. Alors, autant Joey Porter, je mets dans la discussion avec Witherspoon, il n'y a pas de problème. Autant, moi, j'ai toujours autant de problèmes avec Cam Smith. C'est-à-dire que sur le papier, il est rapide, il est physique, il est tout ce que tu veux. Ok. Sur le terrain, gros problème de plaquage, concentration, on va dire, enfin, il est très inconstant. Parfois, t'as l'impression qu'il sort du match. J'ai l'impression qu'il me donne, moi, à chaque fois, c'est de prendre une sorte de pari pour aller faire le gros jeu, sauf qu'il gagnerait à être un peu plus patient et attendre de voir ce que le joueur va faire. Je trouve qu'il a toutes les capacités pour réussir. Mais voilà, il y a toujours ces petits moments où il est naïf. Il y a aussi pas mal de petits pépins de blessures qui peuvent inquiéter. Je sais pas, moi, je trouve que c'est le joueur... En fait, si t'as un coach qui le met droit... Qui lui apprend toutes les bases et qui l'écoute, il pourrait finir meilleur cornerback de cette draft. Tu vois, au bout de 5 ans, 6 ans, peut-être que tu te retourneras et tu te diras, mais en fait, c'est lui le meilleur. En attendant, moi, je trouve qu'il sous-performe. Alors, il sous-performe, tout est relatif, par rapport à un talent que je lui imagine est immense. C'est-à-dire que, voilà, tout est relatif par rapport aux attentes. Mais à chaque fois que je sors d'un match de Cam Smith, bah, je sais pas, je me dis que j'aurais aimé en voir un peu plus, en fait. Et c'est difficile à quantifier, mais j'ai toujours l'impression qu'il est presque trop facile et qu'il pourrait faire encore plus à chaque fois.
Oui, c'est ça. Mais après, il faut voir le nombre de cornerbacks qui vont partir au premier tour. Allez, si on dit qu'il y en a 5...
Oh, 6-7.
6-7, tu penses au premier tour? Ouh.
Ah, moi, je pense que ça va rusher le cornerback. Et alors, si jamais les mecs jouent un peu la montre parce qu'il y a beaucoup de cornerbacks, entre 30 et 50, là, ça va être une radio. Hein.
Ah oui, là-dessus, je suis d'accord. Même plus tard, je veux dire, il y a des joueurs super comme Tyreek Stevenson ou comme Julius Brands, par exemple. Donc oui, les franchises peuvent attendre. Mais ouais, au premier tour, oui, je pense qu'on peut dire, ben oui, Christian Gonzalez, Devon Witherspoon, Joey Porter, Deonte Banks, pour moi, ils sont assurés d'y être. Je pense qu'Emmanuel Forbes peut passer devant Cam Smith et peut-être Kelly Ringo aussi, parce que voilà, il apporte une dimension physique incroyable. Donc pour moi, voilà, Smith, c'est plutôt le 7e cornerback de cette QV. Mais attention, c'est une superbe QV. Donc 7e cornerback, comme tu dis, ça peut être premier tour ou alors tout début du second.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, il sera dans ces eaux-là. Je me fais pas particulièrement de soucis là-dessus. Mais en tout cas, c'est des profils qui sont intrigants. On arrive dans le top 15. Petit roulement de tambour. 15e. Osiris Torrens, qui est un garde. 14e, Miles Murphy, un edge. 13e, Lucas Van Ness, un edge également. 12e, Devon Witherspoon, le cornerback. Et 11e, Broderick Jones, le tackle. Lucas Van Ness. Nombre de titularisations en université, Jean-Michel ?
Zéro.
Et il est top 15. Et ouais. Oui, ça peut surprendre. Alors... En réalité, c'est à moitié vrai parce que dans le système de Iowa, il jouait quand même énormément, mais c'est vrai qu'il jouait pas le premier snap, donc il n'est pas considéré comme un starter. Bon, voilà, sur la saison, il joue quand même 478 snaps, pardon, 271 en pass rush et 203 contre la course, donc ça reste un joli total. Lucas Van Ness, sophomore, donc joueur quand même très jeune. 9 sacks cette saison. Moi, c'est un joueur... Là encore, il y a un côté boomer bust. Hein. C'est-à-dire que niveau physique, il est très puissant. Il est rapide pour un joueur de ce poids-là et de cette taille-là. Il a un bull rush, c'est-à-dire une capacité vraiment à pousser son vis-à-vis, à gagner à la force des bras le duel qui est incroyable, et il a une puissance qui est absolument phénoménale, alors qu'à mon avis, il n'a pas fini son développement physique. C'est-à-dire que lui, ça va être en mode Bayern Munich, quoi. Dans 2 ans, vous allez voir ses bras, ils ne vont pas ressembler aux bras d'aujourd'hui. Après, joueur très très brut, du coup, parce que sophomore, parce que pas titulaire, un peu l'impression que ça manque de finesse dans la technique. Hein. Pour l'instant, c'est beaucoup sur la puissance. On attend un peu de voir des mouvements, on attend un peu de voir des attaques un peu expérimentées. Et du coup, on a un peu l'impression de voir parfois un peu toujours le même joueur. Moi, bougez-toi. Peu importe ce que tu essayes de faire, moi, je fonce dans le tas et je vais te défoncer. Le truc, c'est qu'il joue dans une très bonne conférence. Hein, il ne joue pas des peintres, pas de problème avec ça. Mais en NFL, ça ne sera pas suffisant, quoi. Il va falloir se diversifier un peu. Est-ce qu'on n'est pas, avec Lucas Van Ness, dans le joueur où, en fait, il ne faut rien en attendre en année 1 ? Et si tu le prends... Enfin, rien. Relativement peu en attendre. Et si tu le prends, c'est parce que tu penses que d'ici 2-3 ans, tu auras fini de former et qu'à ce moment-là, ce sera un top edge de la ligue.
Oui, mais c'est ça exactement. Hein. On parlait d'Anthony Richardson. Ben, Lucas Van Ness, c'est un petit peu son pendant, mais au niveau défensif. Hein. C'est ça, c'est le joueur qui a un plafond correct déjà. Attention, correct. Hein. Mais c'est surtout un pari que tu fais sur le potentiel, en te disant, mais les attributs qu'il a, je dirais, comme tu l'as dit, il est puissant, il est rapide. S'il se développe bien, ça peut devenir un top 5 de NFL. Voilà, ça peut être un joueur qui est voté tous les ans au Pro Bowl, etc. Enfin, je veux dire, ça va pas être vraiment un joueur très dominant. Après, ce qu'il faut voir aussi pour Lucas Van Ness, c'est dans quelle équipe il va tomber. Et quand je parle d'équipe, c'est surtout dans quel système il va tomber. Parce que la question que je me pose un petit peu avec lui, et ça joue pas contre lui, hein, c'est même peut-être une chance, mais c'est quelle position ? Parce que tu parlais de edge, alors oui, peut-être en edge. Oui, c'est vrai qu'il a quand même suffisamment de vitesse, mais bon, je suis pas sûr en edge. Ou alors est-ce que ça sera plutôt un peu plus à l'intérieur, un peu à la JJ Watt, et donc du coup qu'ils prennent encore un petit peu de gabarit, qu'ils se servent encore de cette force herculéenne pour vraiment faire des dégâts, mais un peu plus à l'intérieur. Voilà, faut voir quelle sera sa meilleure utilisation à NFL. Est-ce que vraiment c'est, comme un defensive end ou alors comme un 3-4 defensive end, limite defensive tackle. À voir son utilisation et puis évidemment son développement.
Oui, je pense aussi que ça dépendra de ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que si tu as déjà des joueurs puissants, ben ça va vite faire doublon. C'est ce qu'il faut, c'est trouver une équipe qui manque justement de ce joueur-là pour en faire un joueur un peu spécifique sur certains schémas en première année, quoi. Le but, c'est pas non plus qu'il voit pas le terrain, mais qu'il soit limité peut-être à des schémas un peu plus spécifiques à son talent. On arrive dans le top 10. Paris Johnson, tackle. Brian Branch, safety ou defensive back. Je crois qu'il a concouru avec les cornerbacks au combine, donc on va dire defensive back.
Bah c'est un cornerback, Brian Branch.
Ah, je suis pas d'accord.
Après, il faut qu'on... Ben, moi, oui. Ben, il a joué nickel cornerback sur 75% de ses alignements avec Alabama. Donc, un nickel cornerback, c'est quoi? C'est un cornerback ou un safety?
C'est Chauncey Gardner-Johnson. C'est un safety, un nickel cornerback. Mais c'est un autre débat.
Non, il y a cornerback dans le nom.
Oui,
donc,
oui. Il y a cornerback dans le nom, mais ça veut pas
Et
dire.
Et puis, Branch, allez, viens, on prend deux secondes sur Branch, mais regarde Branch. Moi, je trouve que quelque part, il manque un petit peu de cette taille idéale et de cette vitesse pour vraiment être le free safety. Et en même temps, il manque un petit peu de ce gabarit, de cette puissance pour être strong safety. Donc, du coup, pas vraiment free safety, pas vraiment strong safety, mais par contre, très très bon en nickel cornerback. Donc, pour moi, c'est un nickel cornerback. Mais bon, après, on verra. Hein.
Pour moi, c'est Chauncey Gardner-Johnson. C'est un nickel qui peut jouer free safety. Mais bon, tu attends, on a un programme. Qu'on a mis en place, que tu as mis en place,
tu ne respectes même pas
ton programme. C'est terrible. C'est terrible. C'est honteux.
Non,
donc je reprends quand même. Dixième Paris Johnson tackle, neuvième Brian Branch defensive back, huitième Christian Gonzalez cornerback, septième Bijan Robinson running back, sixième Peter Skoronski offensive tackle ou garde selon qui l'analyse. En tout cas, offensive line, on va dire. Écoute, Jean-Michel, on a un joueur qui est septième ici, qui est quatrième, moi, dans mon board, personnellement, ou troisième, d'ailleurs, je ne sais plus. Oui, il est passé troisième, puisque notre cher Jalen Carter, voilà. On a Bijan Robinson, running back. Il n'y a encore pas si longtemps, on voyait des Saquon Barkley en deux, des Ezekiel Elliott en quatre ou cinq, de mémoire, quelque chose comme ça. Des Christian McCaffrey en 8. Et là, on a un joueur générationnel, joueur vraiment un talent à la Saquon Barkley, à la Ezekiel Elliott, même si ce n'est pas forcément le même gabarit que Saquon Barkley, hein, mais je veux dire, un talent de ce niveau-là. Et pourtant, dans les mocks, on le voit 20e, 25e, 27e, 30e. Est-ce que le poste de running back est mort, Jean-Michel?
Non, c'est pas mort. C'est vrai qu'on dit que c'est une ligue aérienne, mais en fait, ça court toujours autant. Hein. Il faut courir, c'est très important. En fait, le truc, c'est que tous les ans à la draft, il y a tellement de super coureurs qui arrivent que forcément, tu te dis, ben, pourquoi j'irai pas plutôt chercher au premier tour une position rare, hein. Parce que c'est rare de trouver un gars qui fait 2m04, 140 kg et qui bouge très bien sur la ligne offensive. Voilà, ça, tu les as pas au 4e ou 5e tour, donc tu les prends d'abord. Alors qu'un coureur, ben oui, tu peux très bien trouver au 4e tour un très très bon coureur qu'en plus tu vas mettre dans un comité, parce que c'est ça aussi qui joue contre cette position, c'est que généralement tu as plusieurs joueurs pour occuper le poste, donc du coup pourquoi investir un tel choix du premier tour de la draft? C'est ça qui joue contre les running backs, et puis après ben voilà, c'est rentrer dans l'inconscient collectif des fans, oh, un running back au premier tour ça sert à rien. Après il faut voir quel type de running back, de qui on parle. Parce que tu vois, tu parlais de Barkley, moi je vois aucune comparaison avec lui, mais par contre Christian McCaffrey, ben oui. Je veux dire, si vous l'avez pas vu, je vous engage à la roi de la vidéo qui a été publiée sur Touchdown Actu, la preuve en image. Je veux dire, Bijan Robinson, c'est un coureur qui fait des tracés de receveurs. Voilà, c'est pas juste un coureur qui fait quelques petites passes écrans et ça rend service. Non, il fait des tracés de receveurs et des réceptions spectaculaires. Il est, voilà. Donc si t'as un joueur qui tous les ans te fait 1800, c'est-à-dire il te fait milliards au sol et 800 en réception, et ça vaut quoi comme choix de draft? Ça vaut quoi ? Pour moi, ça vaut largement un top 10 de la draft, parce que un Christian McCaffrey, c'était vraiment un phénomène, mais le souci, c'est ses blessures, et on le voit bien quand il est en bonne santé, on a vu le boost qu'il a apporté aux 49ers, parce que c'est un tel joueur qui t'apporte au sol et dans les airs, c'est juste extraordinaire comme apport. Non, tu prends pas un coureur au premier tour, parce que tu en auras un bon au deuxième, au troisième, au quatrième, mais Bijan Robinson, c'est pas juste un coureur. Il court, il attrape, il fait tout. Donc, pour moi, il vaut largement un top 10 de la draft, hein.
Oui, il les vaut. Est-ce qu'il le sera ? C'est un... Moi, je vous connaissez mon avis. Je pense qu'un running back ne doit jamais être pris au premier tour pour plusieurs raisons. La première, c'est que statistiquement, toutes les études montrent que c'est les carrières les plus courtes, que c'est des joueurs qui sont souvent cassés très rapidement et que je reste persuadé que la majorité du jeu de course repose sur la ligne offensive plutôt que les coureurs. Après, voilà. Est-ce que moi, je prendrais au premier tour ? Peut-être en fin de premier tour, oui, allez. Est-ce que ça veut dire que j'y crois pas ? Pas du tout. Je pense que c'est un joueur incroyable. Tu parlais de McCaffrey. Moi, pour moi, c'est McCaffrey en plus puissant. Il est plus puissant que McCaffrey.
Ah ouais.
C'est McCaffrey qui a mangé Ezekiel Elliott au petit déjeuner. Bon, peut-être pas quand même. J'exagère un tout petit peu, mais...
Donc, du coup, ça vaut quoi, ça ? Un McCaffrey plus puissant, ça vaut quoi comme choix de draft ? Ça vaut pas un top 15 ?
Alors, mon cher Jean-Michel, Christian McCaffrey, que j'aime beaucoup, hein, qui est un incroyable joueur, il a eu quoi comme saison on va dire, il a pu contribuer du début à la fin.
Non, mais après, voilà, ne parle pas des blessures de McCaffrey.
Il a eu 2018, 2019, 2022. Donc, il y a un moment... Oui, mais c'est tous les joueurs. C'est tous ces joueurs-là, c'est tous ces running backs-là qui, je suis désolé, t'en as un qui est durable pour 15 qui sont pétés. T'en as combien qui réussissent quand ils signent leur contrat d'après rookie McCaffrey tout en blessé. Ezekiel Elliott, maintenant, c'est numéro 2. Enfin, Alvin Kamara, porté disparu. Enfin, il y a un moment, je préfère investir sur un tackle, sur un edge, sur un cornerback qui peuvent être à 8-10 ans et t'apporter sur le plus long terme. Mais après, je comprends très bien. Mais moi, je pense qu'il partira deuxième partie de premier tour. Voilà. Je pense que c'est là où il va partir. D'autant plus que ce qui ne l'aide pas, c'est que dans le top 10, il y a quand même des besoins assez criants en termes de quarterback, de cornerback, qui font que les positions premium vont être, à mon avis, privilégiées. Mais il a un talent monstre. C'est un joueur... possiblement générationnel, mais je pense que c'est pas pour rien que la ligue entière dévalue ce poste. C'est qu'aujourd'hui, c'est un poste qui n'est plus aussi important, et l'approche par comité a limité encore plus l'importance de ces joueurs-là.
Oui, mais c'est pas un joueur-là, c'est pas un coureur. C'est ça le truc avec Bijan Robinson. Parce que si on parlait, je sais pas moi, de Tank Bigsby, de tous les bons coureurs qu'il y a à ce draft, il y en a plein, très bons coureurs. Mais lui, c'est pas ça. Lui, il t'apporte dans les deux domaines. Je veux dire, allez, je dis pas que ça va être le choix, mais je vais prendre une hypothèse qui va te faire bondir. Regarde à 9 les Bears. Oui, ils ont d'autres besoins, oui, sur la ligne offensive, tout ce que tu veux, etc. Mais imagine avec un jeune quarterback comme ça qui n'est pas encore bien développé en Justin Fields, tu lui ajoutes un coureur comme Bijan Robinson qui non seulement peut le décharger un petit peu de l'attaque en courant, parce qu'il peut courir au centre, il peut courir à l'extérieur, mais également être une soupape de sécurité comme ça dans le jeu aérien, et pas juste pour une passe écran en cas d'urgence, non. C'est un autre receveur en plus aux côtés de DJ Moore, aux côtés de Claypool, etc. Ben, du coup, ton attaque, elle est hyper dynamisée d'un seul coup, ton attaque, elle prend une autre dimension.
Ouais,
bien plus que si tu prends un tackle.
Je pense que ton attaque est... Ah bah non, je suis pas d'accord. Ton attaque, elle est bien plus dynamisée si t'as un left tackle qui tient la barre.
Oui, bah il y a le jeune Braxton Jones. Tu peux aussi lui laisser une chance, même si c'est pas l'assurance.
Ouais.
Mais ouais, écoute, oui, c'est un débat. De toute façon, c'est pour ça qu'on en débat, d'ailleurs. Hein. Mais...
On verra bien. Mais en tout cas, c'est absolument pas... Le débat, il est vraiment sur la valeur de la position running back aujourd'hui. Il n'est pas sur la valeur de Bijan Robinson, qui est un joueur absolument exceptionnel, on est tous d'accord.
Mais j'insiste, c'est une double position, Bijan Robinson. C'est une double position. C'est Austin Eckler 2.0, c'est une double position. C'est, voilà, c'est course et réception. C'est ça qui fait vraiment qu'il est à part.
En tout cas, on lui souhaite. Nous étions donc sur le top 10. On va passer sur le top 5. En 5, Tyree Wilson, Edge. Choix surprenant. Je dirais ça comme ça. En 4, Jalen Carter, defensive line. Alors, Jalen Carter, on ne va pas y revenir. Hein. Au niveau du talent, c'est numéro 1 de draft possible. C'est incroyable, c'est tout ça. Mais problème extra-sportif. Pro D, où il est arrivé complètement en surpoids, complètement hors de forme. Enfin, il est en train de s'auto-détruire, ce joueur. Vous pouvez l'avoir 1 sur le potentiel. Vous pouvez l'avoir 100 parce qu'il est en train de s'auto-détruire. Moi, honnêtement, je ne vous jugerai pas. Enfin, c'est impossible d'avoir une bonne valeur de ce joueur aujourd'hui. Faudrait un podcast entier pour parler de lui. Troisième, CJ Stroud, quarterback. Deuxième, Bryce Young, quarterback. Et premier, Will Anderson, Edge. On aura l'occasion de vous parler de Will Anderson, mais on ne pouvait pas. On ne pouvait pas ne pas finir sur un duel, sur le poste le plus important, quarterback, le petit Bryce Young face au grand CJ Stroud, Jean-Michel. C'est le moment où, là on va quand même tous les deux prendre le temps de répondre à cette question, Bryce Young ou CJ Stroud, qui a ta préférence?
Oh, mais moi, je réfléchis même pas. J'aime bien CJ Stroud, mais je réfléchis même pas. C'est Bryce Young. C'est Bryce Young, parce que voilà, c'est un tel manipulateur dans la poche. C'est incroyable. C'est incroyable l'engagement du ballon, comment il arrive à scanner les différentes options, comment il arrive à gagner du temps s'il y a besoin de gagner du temps. Il bouge dans la poche. Je veux dire, il fait tout le temps le bon choix. C'est incroyable. Alors oui, il fait quelques erreurs, évidemment, mais il fait tout le temps le bon choix. Puis c'est vraiment le lanceur par excellence, celui qui va te faire briller toute ton équipe, tu les mets une escouade de receveurs moyens et il va les rendre extraordinaires. Bryce Young, il a vraiment tout. Non, ok, il n'a pas le gabarit, mais en même temps, Bryce Young, c'est pas un quarterback mobile qui va sortir de la poche, donc ça limite largement les risques d'être percuté parce qu'il sortira très très rarement. Donc, mais dans la poche, par contre, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est efficace, qu'est-ce qu'il est bon. Il a tout, la précision à court terme, la précision sur les zones intermédiaires. Il s'est également lancé en profondeur, il lance avec anticipation, il lit les défenses, il s'ajuste. Voilà, j'aime bien si je déstrape, peut-être que tu vas en parler, mais Bryce Young, pour moi, c'est clairement le numéro 1.
Clairement, je sais pas. C'est-à-dire que moi, ces trois dernières semaines, j'ai changé à peu près deux fois d'avis. J'ai toujours Bryce Young un tout petit peu devant, mais je vais parler de CJ Stroud quand même. C'est un joueur qui a réalisé son meilleur match en carrière au meilleur moment, parce qu'en demi-finale nationale cette année. C'est un joueur qui a encore été impressionnant au combine. Et en fait, le truc qui peut jouer pour Stroud face à Bryce Young, c'est que Stroud, il coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les réserves physiques qu'il peut y avoir sur Bryce Young. Il y a une précision qui est phénoménale. Il y a une capacité de faire absolument tous les lancers. Il y a un QI football qui est très haut. Après, en fait, le petit point noir... Mais encore une fois, en demi-finale nationale, il a été très bon là-dessus, mais quand même, au fil de sa carrière, un petit point noir, qui était un peu un point noir aussi de Justin Fields. Et malheureusement, avec une telle ligne à Ohio State, on n'a pas un échantillon suffisamment grand pour le juger, c'est sa résistance à la pression. C'est-à-dire cette capacité, parfois, à paniquer lorsqu'il y a un ou deux joueurs qui t'arrivent sur le dos. Et on l'a vu parfois un peu perdre son sang-froid là-dessus. Et l'autre truc qui est un tout petit peu où il pourrait faire beaucoup mieux, je trouve, c'est dans la gestion de la poche et choisir les moments où il doit sortir de la poche. Il est trop confortable parfois, il ne sort pas assez. Il faut savoir prendre des risques, surtout dans la NFL moderne. Et il faut qu'il ait un peu plus l'audace, on va dire ça poliment, de sortir de la poche parfois pour faire le jeu, ce qu'il n'a peut-être pas forcément assez fait. Mais encore une fois, quand tu as si peu de pression quand tu es à Ohio State, est-ce que tu as besoin de jouer au héros? Non. Non, mais quand il va arriver en NFL, il n'aura pas la ligne offensive d'Ohio State. Donc il va bien falloir qu'il aille au mastic. On a vu que Justin Fields, ça a pris un petit moment avant qu'il sorte la tête de l'eau. Donc, il y aura peut-être ce phénomène-là aussi chez lui. Alors, s'il tombe aux Panthers, puisque actuellement, les rumeurs, même si bon, les rumeurs ne donnaient pas Baker Mayfield numéro 1 de draft, hein, par exemple. Donc, on verra, évidemment, tout peut encore changer. Mais les rumeurs du moment seraient qu'il part en numéro 1 chez nos amis des chatons de Caroline. Bon, là, il aurait Ike Mekwonu, Brady Christensen, Taylor Moton. Bon, c'est pas mal pour débuter. Il y a pire. On a vu pire dans l'histoire, donc à voir. Mais je sais pas. Honnêtement, moi, j'ai un peu les deux au même niveau. Mais je pense qu'à la fin des fins, ils choisiront le joueur qui coche les cases techniques, les cases physiques.
Oui, c'est possible, c'est possible. Après, tu vois, quand on parlait d'Anthony Richardson, une de ses limites, voilà, c'est sa capacité à faire des lectures, des choses comme ça. Ben, je trouve que Bryce Young est bien meilleur dans ce domaine que CJ Stroud. CJ Stroud, je l'ai vu faire des lancers extraordinaires. C'est un très beau counterback, je ne suis pas en train de le critiquer, mais par rapport à Bryce Young, il me donne beaucoup plus d'assurance dans sa capacité à avoir plusieurs lectures. Alors que CJ Stroud, j'ai surtout l'impression que, voilà, engagement du ballon, il regarde, hop, hop, Marvin Harrison est démarqué, c'est bon, je lui lance, et ça y est, c'est fait, le jeu est fait. Comme tu dis, s'il tombe à Carolina, d'accord, il aura une bonne ligne offensive, mais en receveur, ça ne sera pas non plus extraordinaire. Et donc, du coup, ben, s'il se fixe que sur sa première lecture, ben, il sera un petit peu dans la mouise, et il aura du mal. Je pense beaucoup plus qu'un Bryce Young qui, pour moi, bouge beaucoup mieux dans la poche, analyse beaucoup mieux ce qui se passe, qu'est-ce que me donne la défense, où est mon duel favorable, et hop, c'est lui, hop, je le trouve, je change d'option, il n'y a pas de souci. CJ Stroud, j'ai l'impression que si tout se déroule bien dans le jeu appelé, alors oui, il n'y a pas de problème, il peut faire tous les lancers, en plus, il les fait très bien. Mais par contre, s'il doit changer d'option parce que la défense a permuté, etc., ben, il est un peu plus embêté. Et puis, comme tu dis, c'est étonnant de voir un joueur qui a ses capacités athlétiques et qui finalement s'en sert assez peu pour aller gagner des yards au sol. Donc ça fait deux limites. Alors c'est deux petites limites. Hein. CJ Stroud, pour moi, il vaut tout à fait un choix du top 5. Mais c'est pour ça que je mets Bryce Young avant lui.
Oui, oui, mais encore une fois, il n'y a pas, je pense, de bon ou de mauvais choix. Il y a deux joueurs qui sont très talentueux, qui normalement, sauf surprise, devraient finir, on va dire, 1 et 2. Ou toi, t'as peut-être envie de rentrer un petit Richardson à un moment ?
Ah, mais moi, j'ai envie de rien. Mais la vérité, hein, moi, j'ai envie de rien. C'est juste que je me dis que vu les attributs que propose Richardson, c'est possible. Après, c'est pas mon choix, moi. De toute façon, moi, je ferai aucun choix à la draft. Hein. Donc, je parle vraiment d'une perspective de general manager et je me dis, ils peuvent être très excités par ce potentiel-là. Moi, c'est pas, je veux pas mettre Richardson là. Je pense que Young et Stroud sont meilleurs que Richardson. Après, c'est toujours possible. Voilà.
Non, mais tu vois, moi, le mariage que j'aimerais bien, c'est voir un Station qui a travaillé avec Jalen Hurts prendre Anthony Richardson, tu vois. Donc, imaginons, hein, par exemple, Stroud aux Panthers, Young aux Texans et Richardson aux Colts. Tu vois, je me dis, ça serait pas trop mal pour ces joueurs-là. On a connu des pires situations, en fait, j'ai l'impression. Alors, peut-être la situation la plus incertaine, c'est Houston. Bon, où il y a quelques recrutements, et puis il y a un left tackle qui a été prolongé. Mais bon, c'est quand même pas, voilà. C'est quand même pas aussi rayonnant que les deux autres, peut-être. Mais ça reste, bon, ça reste deux équipes, je pense, dans lesquelles on peut réussir. Bien, merci Jean-Michel.
Merci Victor, merci tout le monde. Écoutez, on a 5 semaines de la draft, hein. ça approche.
Oui, et on va te retrouver avec Tonio pour les premières pastilles, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc on commence dimanche 26.
Et on parlera d'ailleurs de Carolina. Hein, pour
commencer. Et on parlera de Carolina. Alors pour vous dire, on a pris l'ordre des bilans, c'est-à-dire l'ordre de la draft avant trade, à une exception près. C'est qu'on a quand même inversé Carolina et Chicago, parce que Carolina ayant le premier pick, bon, c'est quand même bien de commencer par eux. Et donc, ça sera toi et Tonio. Et évidemment, tout au long des podcasts, vous allez retrouver Grégory, vous allez me retrouver moi également, Niti. Et je pense qu'on va faire ça à 5. Donc, ça devrait être à peu près tout. C'est déjà très bien. Évidemment, et on embrasse le reste de l'équipe draft que vous retrouverez peut-être dans les mocks ou dans les articles, ça c'est sûr. Alex, Mehdi Kevin, et je dois en oublier. Mais,
et Elliot.
Mais on en oublie toujours un quand on cite une liste comme ça. Merci à toi, Jean-Michel. Merci à vous. Et à partir du dimanche 26, 32 jours, 32 pastilles, et ensuite, la draft. Merci à tous.
Allez, ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.